Nous souhaitons une cordiale et fraternelle bienvenue à vous tous qui nous suivez de 18 pays par Zoom et à vous qui êtes ici en présentiel à Balègue. C'est une joie d'accueillir Gilles Despins pour ce premier cours de Biblos de la série sur les fondements. Le sujet de ce soir est « Qu'est-ce que la Bible ?» Pour le chrétien, pour l'Église et pour le monde, la parole de Dieu est hyper importante, elle est même vivante. C'est elle qui touche les cœurs, qui nous affermit dans notre foi, qui nous fait grandir et nous amène à la maturité spirituelle. Elle nous rend solides dans un monde qui a toujours rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nécessité et même une urgence de l'étudier et de la garder dans nos cœurs, car le temps de la venue du Seigneur est proche. Alors avant de lui donner la parole, nous allons prier. Eh bien, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de pouvoir suivre ce cours sur les fondements, et en particulier sur ce qu'est la Bible ce soir. C'est un cadeau que tu nous fais, c'est une grâce. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, te remettre la technique pour que chacun puisse bien entendre et voir ce qui va être dit. Nous voulons te remettre chacun des participants afin que tu bénisses chacun à l'écoute de ce que Gilles va nous dire de ta parole. Nous voulons te remettre ce contenu du cours pour qu'il soit en bénédiction pour chacun. Nous voulons te remettre Gilles pour que tu l'accompagnes, pour que tu l'inspires par ton esprit dans ce qu'il va nous dire et communiquer. Et nous voulons te demander aussi, notre Dieu, notre Père, que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Amen.
Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir, un privilège de lancer cette nouvelle série Biblos cette année. Nous voulons parler des fondations, des fondements de la foi chrétienne, les doctrines de base essentielles à la foi chrétienne. Et j'ai le privilège de lancer cette série cette année en abordant le sujet de la Bible elle-même. Puis, j'aimerais vraiment débuter avec une petite remarque qui se veut vraiment être constructive. Je ne sais pas si c'est le cas dans les assemblées ici en Suisse romande, mais au Québec, sans faire une généralité de tout ça ou de généraliser la situation, j'ai quand même remarqué, dans les dernières années, plus on avance, il y a comme deux choses qui sont en train de disparaître dans nos églises locales. Et disparaître, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais pas tant que ça, en réalité. Il y a deux choses que j'ai remarquées qu'on voit moins, qu'on entend moins. Premièrement, c'est le « Amen ». Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on entend moins souvent ou avec moins d'élan, de force, le « Amen » suite à une prière. Dans nos assemblées au Québec, c'est souvent comme ça, où on dirait que les gens sont timides maintenant, où deux, trois seulement vont dire un « Amen » bien prononcé, alors que moi, j'étais fasciné au début de ma vie chrétienne d'entendre ces « Amen » d'une seule voix, à l'unisson, par tous les croyants de l'Église locale. Et la deuxième chose que je vois disparaître, curieusement, ce sont des croyants qui prennent leur Bible en main dans les assemblées. Ici, je ne veux pas généraliser, puis je ne connais pas assez les églises locales à ce point pour dire c'est le cas aussi, mais chez nous, j'ai remarqué ça. Et je pensais que c'était une remarque à propos pour débuter cette formation et ce cours sur la Bible elle-même. Bien entendu, on a des formats différents aujourd'hui avec les Bibles électroniques et tout ça sur les applications sur téléphone ou tablette, etc. C'est très bien, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus des croyants sans une Bible entre leurs mains. Puis je me dis, si nous sommes pour démontrer la valeur et l'importance de ce livre-là ce soir. Je me dis, ben, peut-être qu'on pourrait commencer avec cette remarque-là, avec un encouragement à prendre nos Bibles en main. Puis, je ne peux pas le faire maintenant parce que le temps nous est compté, mais j'aurais presque envie de vous dire, si vous n'avez pas une Bible tout de suite entre les mains, ben, allez la chercher. Parce que, bon, je vais afficher au PowerPoint des versets parce que ça va donc être utile pour épargner du temps un peu. Mais il y a quand même des textes que nous allons aller voir qui ne sera pas sur le PowerPoint, qui ne sera pas non plus dans le canevas qui vous a été remis. Donc, ayez une Bible en main ou à proximité pour qu'on puisse s'y référer. C'est de ce livre-là que nous voulons parler, puis je verrais mal que moi-même, je n'ai pas cette Bible dans mes mains en train de l'ouvrir devant vous et que, sachant qu'il y a beaucoup de croyants maintenant qui la laissent fermer, vont se fier uniquement sur le PowerPoint dans les églises locales et n'ouvrent peu ou pas leur Bible. En tout cas, de ce que j'ai vu ici, déjà dimanche matin, on prend la Bible en main et on la lit et on la ouvre. Et ça, ça me réjouit beaucoup. Franchement, on a besoin de garder cette bonne habitude d'avoir une Bible en main et de l'utiliser. Dans une petite vidéo promotionnelle que j'ai faite en vue de ce cours-là, j'ai raconté une anecdote à propos d'une personne qui voulait bien parler de Dieu avec moi, mais qui m'avait dit « Parle-moi de Dieu, mais pas de la Bible. » Et j'ai souligné dans cette petite vidéo-là que ça avait été la fin de la discussion. Parce que comment je pourrais parler de Dieu et de ce que je crois si je ne peux pas parler de la Bible et si je ne peux pas me référer aux Écritures? C'est juste pas possible. C'est à partir des Écritures que vient tout ce que je crois, tout ce que je fais, enfin, toute ma vie est fondée sur ce livre-là. Et cette vérité-là s'applique à ce que nous débutons ce soir, c'est-à-dire que la Bible va être le fondement des fondements que nous allons parler ensemble. Quand nous construisons au Québec, on utilise des termes anglais et quand on parle de construire une maison à partir des fondations, on commence avec ce qu'on appelle en anglais la footing. La footing. Et sur la footing, on construit le solage lui-même, c'est-à-dire la fondation de béton. La footing, c'est ni plus ni moins qu'une assise de béton plus large, épaisse, sur laquelle la fondation de béton va reposer. Donc, l'assise en dessous, là, ce qu'on appelle chez nous au Québec la footing, c'est de ça que je veux vous parler. C'est ça la Bible. C'est la footing, c'est l'assise même sur laquelle est appuyée notre foi chrétienne et les doctrines que nous allons vous présenter, les fondements de la foi chrétienne, ben, ils sont appuyés sur la parole de Dieu. Si nous n'avions pas la Bible, sur quoi pourrions-nous nous appuyer? La philosophie humaine, la sagesse humaine, qu'est-ce que ce serait alors? Donc, si nous voulons débuter notre série sur les doctrines essentielles de la foi, il faut débuter avec une étude de la Bible elle-même parce que c'est vraiment l'assise, la fondation sur laquelle nous allons nous appuyer. Déjà en 2016, dans le cadre de Biblos, nous vous avions présenté un survol des grandes doctrines de la Bible. On avait utilisé à ce moment-là les termes techniques qui finissent en « ogie » comme bibliologie, c'est-à-dire l'étude de la Bible en tant que doctrine. Et c'est moi qui avais eu le privilège là, de vous présenter la bibliologie, c'est-à-dire l'étude ou la doctrine de la Bible. Et sans revenir sur cette présentation-là, j'avais souligné la vérité que la Bible est la révélation de Dieu, dans le sens où Dieu se révèle lui-même dans ce livre-là, mais aussi tous ses plans éternels sont révélés dans la Bible. Et c'est vraiment un livre extraordinaire. C'est un livre de révélation. Maintenant, on vous a remis le PowerPoint. Je crois que vous avez accès aussi par le site de Biblos et peut-être même dans le courriel que vous avez reçu. On vous a remis aussi un canevas de notes. Vous n'avez pas besoin ce soir de vous référer à ce canevas-là. Vous pouvez même, je vous encourage à le laisser de côté. Pour ne pas être distrait par ça, en essayant de faire les lectures, en suivant, en fait, tout ce qui était nécessaire d'être sur ce canevas, je l'ai mis là, contrairement aux années passées où j'avais l'habitude de mettre juste un peu de texte avec des espaces à remplir là pour prendre vos propres notes. Vous pouvez toujours le faire si vous voulez, mais prenez-vous une feuille à part avec un crayon, un stylo, peu importe, et notez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de suivre en même temps sur le canevas. Vous pouvez juste me regarder ce soir, m'écouter, et puis suivre avec l'aide du PowerPoint aussi, que j'imagine vous voyez autant ici dans le local que vous qui nous suivez depuis l'application Zoom. Et par la suite, vous pourrez relire le canevas et vous allez retrouver l'essentiel de tout ce que j'ai voulu présenter ce soir. Donc, nous allons parler de la Bible et premièrement, je vais ouvrir ça. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on dit la Bible exactement? Il y a plusieurs mots et expressions qui sont utilisés pour parler de ce livre, de la révélation progressive de Dieu. On parle de la Sainte Bible, les Écritures et la parole de Dieu. Et ce sont probablement les expressions, les termes les plus connus. L'expression « parole de Dieu » elle-même, avec quand même une certaine variété de sens selon le contexte où elle est utilisée, apparaît 49 fois dans le texte de la Bible Darby, l'expression « parole de Dieu ». Et là, c'est vraiment important que nous comprenions le lien qui existe entre la Bible et la parole de Dieu. Parfois, ce lien-là, il est très mal exprimé. Et quand il est mal exprimé, ça devient une fausse doctrine. Il ne faut pas dire que la Bible contient la parole de Dieu. Ne dites jamais ça. C'est faux. C'est même une fausse doctrine grave. Ça touche à l'essentiel même de la foi, aux fondations de ce que l'on croit. Il faut plutôt dire « la Bible est la parole de Dieu ». Elle est la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, dans tout ce qu'elle dit, dans tous les domaines qu'elle touche. Parce que si on dit que la Bible contient la parole de Dieu, cela peut suggérer qu'elle contient aussi autre chose, en l'occurrence des erreurs humaines. Mais ce n'est pas le cas. La Bible, c'est la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, d'un bout à l'autre, dans tout ce qu'elle dit, dans tous ses détails. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne cela et qu'on l'accepte pleinement par la foi dès le départ pour avoir un fondement très sûr. Hein. Le mot « Bible » lui-même vient d'un terme grec qui signifiait au départ « livre », mais au pluriel. « Biblia », c'est pluriel. Mais par l'usage, ce terme-là en est venu à signifier un livre en particulier, même si le terme demeure pluriel au départ. Et on peut certainement dire que la Bible est sans contredit le livre des livres, le livre par excellence. Et on la qualifie souvent de sainte en raison de son caractère sacré parce qu'elle vient de Dieu. C'est la Sainte Bible à cause de ça, parce qu'elle vient de Dieu, elle a été donnée par Dieu. Le mot « écriture », lui, c'est le terme le plus souvent utilisé dans la Bible elle-même. On trouve aussi d'autres expressions assez semblables, comme « sainte lettre » dans 2 Timothée 3, verset 15. Mais ce qui est intéressant avec le terme « écriture », c'est qu'il fait clairement allusion à l'activité humaine dans la rédaction des textes de la parole de Dieu. Donc, « écriture », c'est la parole de Dieu, mais en faisant allusion à la rédaction humaine, donc à l'activité humaine. Mais cette activité humaine-là, elle était contrôlée et dirigée par une activité divine qu'on appelle l'inspiration. Donc, les deux vont ensemble. Écriture, là, ça comprend l'idée de rédaction humaine, mais avec l'inspiration. Et quand on dit que la Bible est inspirée de Dieu, c'est dans quel sens exactement que nous voulons dire ça? Eh bien, c'est simple. En partant, c'est très simple. C'est que dans la Bible, Dieu parle. Dieu parle. C'est ce que disent David Et nous avons dans le PowerPoint cette citation de 2 Samuel 23:2. L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi et sa parole a été sur ma langue. Même si David parle de parler, c'est ce qu'il rédige aussi. Donc, ce qu'il a dit, il l'a mis par écrit et c'est ce qui vient de Dieu. Donc, il reconnaît que ces paroles qu'il dit, qu'il met par écrit, viennent de Dieu. C'est ce que David reconnaît dans ce passage de 2 Samuel. On voit que Jérémie va aussi dans le même sens lorsqu'il rapporte ces paroles de Dieu. « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Dans Jérémie 1, verset 9. Mais aussi, comme le fait Ézéchiel, mais beaucoup d'autres prophètes aussi, c'est comme une parole typique des prophètes de l'Ancien Testament. « Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. » On le voit dans Ézéchiel 5:5, mais dans beaucoup d'autres passages, version seconde va plutôt dire « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, c'est Dieu qui parle. On voit que dans le Nouveau Testament, Paul et Pierre vont affirmer la même chose aussi en disant que toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à travers l'Écriture, qui souffle ses mots. Verset 2 Pierre 1, verset 21, Pierre nous dit la même chose ou sensiblement la même chose, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. » Et c'est ça que signifie en réalité l'inspiration de la Bible. C'est Dieu qui parle, tout simplement. Mais l'inspiration de la Bible, c'est aussi la manière dont Dieu parle à travers les Écritures, la manière dont Dieu a donné sa parole aux hommes qui l'ont écrite. Parfois, on pose la question dans les milieux qui sont non chrétiens où on fait plutôt même une affirmation en disant « Ah, la Bible, ça a été écrit par des hommes ». Le présupposé derrière cette affirmation-là, c'est de dire que ça ne vient pas de Dieu, ça a été écrit par des hommes. Et je crois que la bonne réaction première à cette affirmation-là, c'est de leur dire « Oui, vous avez raison. Elle a été écrite par des hommes. Mais ces hommes ont écrit poussés par l'Esprit de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Le miracle de l'inspiration, c'est exactement ça. Dans l'Ancien Testament, ce sont des prophètes qui ont rédigé les livres qui en font partie. Tous les livres de l'Ancien Testament ont été rédigés sous l'autorité qu'on appelle prophétique, parce qu'ils ont été prophètes. Et pour le Nouveau Testament, c'est plutôt une autorité apostolique. Donc, tous les livres du Nouveau Testament ont été rédigés soit par des apôtres eux-mêmes ou des délégués apostoliques ou, disons, des représentants apostoliques. Je pense, entre autres, à Marc et à Luc. Donc, eux, ils ont rédigé autant prophètes qu'apôtres sous l'inspiration de Dieu et comme si Dieu avait soufflé dans l'homme sa parole. D'ailleurs, dans le texte original, c'est ce que signifie le terme « inspiré de Dieu ». Ça veut dire « soufflé par Dieu ». Dieu a soufflé dans l'homme sa parole. Mais c'est tout un phénomène et un phénomène vraiment particulier. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ce phénomène-là, c'est que Dieu a donné sa parole, il a soufflé sa parole dans des hommes à travers des circonstances historiques réelles, dans des circonstances qui étaient vécues, c'est des vraies choses là, qui sont arrivées, là, par la plume d'hommes authentiques qui ont écrit avec leur arrière-plan, leur éducation, leur culture, leurs émotions, leurs sentiments, leurs désirs, même leur inquiétude, c'est comme ça qu'ils ont rédigé. Et le Seigneur a utilisé tout ça miraculeusement pour donner sa parole. Moi, je ne crois pas du tout à l'automatisation, là, genre l'auteur se met à écrire comme une espèce de robot en transe. Il écrit, puis tout à coup, il regarde, « Oh, wow, c'est moi qui ai écrit ça, c'est magnifique. » Je ne crois pas à ça. Ce n'est pas comme ça que le phénomène de l'inspiration se produit. C'est vraiment dans des circonstances réelles, authentiques, avec le caractère des auteurs, avec les circonstances de la situation. Et j'aimerais qu'on utilise un texte qu'on voit, en fait, c'est Jude. Il n'y a qu'un chapitre, hein, des versets 3 à 5. Et on va lire ces versets-là et voir de quelle manière Dieu nous a donné cette belle épître-là qui nous encourage à lutter contre les faux docteurs et comment il l'a donnée dans des circonstances tout à fait historiques avec les sentiments d'inquiétude de Jude qui se voyait là et qui voyait cette situation en fait alarmante dans l'Église. Et voici, il a rédigé cette épître. Lisons les versets 3 à 5. Le texte est à l'écran pour l'instant. « Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler à vous qui, une fois, saviez tout que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru. » Remarquez ce que Jude dit dans ce passage. Lui, au départ, il avait un but de rédaction par rapport au salut qu'il partage avec d'autres croyants. Il voulait écrire au sujet du salut commun. J'ignore de quoi il voulait parler exactement. Je ne sais pas, le salut, c'est large. Il y a beaucoup de sujets dans le salut qu'on pourrait discuter ensemble, n'est-ce pas? Et lui, il usait de toute diligence, c'est-à-dire qu'il en faisait un grand sérieux. Il s'y appliquait de tout son cœur. Il voulait rédiger une lettre, probablement d'encouragement, hein, de ce qu'on voit là, pour parler du salut commun. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Il y a eu un changement de direction. Le changement de direction, on peut le voir sous deux angles, l'angle humain et l'angle divin. L'angle humain, c'est celui où Jude va constater des problèmes graves en lien avec la grâce de Dieu, surtout en lien avec comment des gens usent de la grâce de Dieu. Et toutes ces inquiétudes qu'il va avoir, ça, c'est l'aspect humain. Et l'angle divin de tout ça, c'est qu'à travers ça, Dieu va pousser Jude à rédiger le texte qui devait nous parvenir. En fait, la lettre de Jude, telle qu'il voulait la faire au départ, elle aurait certainement été intéressante. Hein? C'est comme lire un bon traité ou un échange entre des croyants dans l'histoire de l'Église sur le salut. Mais Dieu avait plus que ça. On le voit donc qu'il voulait écrire au sujet du salut commun et regardez l'expression suivante. « Je me suis trouvé dans la nécessité. » Donc, c'est comme s'il disait « j'ai pas eu le choix ». Et là, moi, je ne pense pas que ça signifie que Dieu lui a dit audiblement dans son esprit « là, tu voulais écrire ceci, je ne veux pas, tu vas écrire autre chose ». Bon, ça se peut, mais j'en doute fort, parce que les explications qui suivent ne sont pas en lien avec un message reçu de l'au-delà. Ce n'est pas comme quand Paul nous dit « c'est par une révélation du Seigneur que je vous écris ça ». C'est plutôt par des circonstances actuelles, soit dans son église locale, dans sa région ou ailleurs, mais c'est ça qui l'a motivé à aller de l'avant dans sa rédaction. Il dit « je me suis trouvé dans la nécessité, afin pour vous exhorter, etc. » Car certains hommes se sont glissés. C'est ça la situation humaine, l'angle humain de la situation qui a poussé Jude à écrire. Il a vu des gens se glisser parmi les fidèles. Il a constaté les ravages de leur fausse doctrine. Et donc, ça l'a motivé à changer de sujet et ça l'a poussé à écrire cette épître de combat. On voit même le cœur de Jude exprimé clairement au verset 5, « Je désire vous rappeler. » Ça, c'est le miracle de l'inspiration qui nous fait garder ces mots-là, parce qu'à travers le désir d'un frère qui aime l'Église et qui aime la grâce de Dieu et qui déteste la voir être autant déformé, eh bien, à travers ce désir-là, Dieu est en train de pousser sa parole dans lui. Dieu est en train de souffler l'épître de Jude qui va nous être conservé. Retenez bien ça, c'est magnifique cet aspect-là dans la parole de Dieu. Ça ne devrait jamais nous troubler. Au contraire, ça devrait nous convaincre que le miracle de l'inspiration, c'est Dieu qui parle à travers l'homme dans ses circonstances. Et c'est ça qui est un miracle, quelque part. Paul va aller dans le même sens. Dans 2 Corinthiens 8, 10, il dit ceci. Et en cela, Paul est en train de discuter au sujet de la grâce, de la participation à une collecte, entre autres, et dit, et en cela, je vous donne un avis, car cela vous est profitable. Un avis, c'est comme une opinion. Est-ce que l'opinion de quelqu'un peut faire autorité en matière de foi et de conduite? Oui, parce que c'est dans la parole et l'Esprit de Dieu. Donc, Paul, lui, a donné son avis. Paul ne parle pas toujours comme ça. Hein? Des fois, là, il parle en disant, « Le Seigneur m'a dit directement, et là, je vous écris ça, alors écoutez ce que le Seigneur dit. » Donc, Paul utilise différentes formes de communication, mais wow! Là, il donne son opinion. Mais ça n'a pas moins d'importance, ça n'a pas moins d'autorité, parce qu'à travers l'opinion d'un homme, Dieu a soufflé sa parole. Et donc, ces mots-là sont inspirés de Dieu. Et donc, ils font autorité autant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais penser que la Bible contient la parole de Dieu. Oubliez ça, elle est la parole de Dieu d'un bout à l'autre. Et même les avis, même les opinions des rédacteurs, c'est la parole inspirée de Dieu et qui fait autorité. Dans la première épître aux Corinthiens, dans 3 versets, je les ai rassemblés ici, 12, 25 et 40, nous lisons. « Mais quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi. Or, j'estime que moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. » C'est hallucinant, ces textes-là, mis bout à bout comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça nous confirme que Dieu a vraiment utilisé des personnes authentiques dans des circonstances authentiques et réelles pour donner sa parole. Quand Paul dit c'est moi, non pas le Seigneur, c'est pas moindre. C'est simplement qu'il fait allusion au fait que dans son ministère terrestre ou durant son ministère terrestre, Jésus n'a pas dit spécifiquement ça. D'ailleurs, Jésus n'a pas parlé sur tout ce qui concerne l'Église durant son ministère public. D'ailleurs, il avait même dit que les apôtres en feraient de bien plus grandes choses encore en donnant le Nouveau Testament, entre autres, à l'Église, de façon particulière. Donc, Paul ici précise ce fait simplement. Vous ne trouverez pas ça dans les Évangiles, ce que je vous dis, mais c'est toujours la parole du Seigneur quand même. Et elle est autoritaire et elle est inspirée, même s'il donne son opinion, s'il n'a pas reçu d'ordre du Seigneur. C'est-à-dire, ce que je vous dis présentement n'est pas une révélation directe du Seigneur. Mais son opinion compte aussi. Et j'aime bien comment il dit à la fin de ce verset 40, « J'estime que moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. » C'est comme si Paul nous déclarait qu'il est parfaitement conscient de dire et d'écrire ces choses sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et c'est évident que c'est ce que Paul faisait sans aucun doute. Il y a encore dans les Galates au chapitre 4, les versets 19 et 20. « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous, oui, je voudrais être maintenant, auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. » Qu'est-ce que ce texte-là nous dit? Il nous révèle que l'Épître aux Galates nous a été donnée par inspiration de Dieu à travers les soucis de Paul pour les Galates, à travers ses inquiétudes, sa perplexité, son angoisse. Il dit que c'est comme si je souffrais à nouveau l'enfantement, là. Paul est en train vraiment de parler de ce qu'il vit à l'intérieur. Il est en train de mettre ses émotions à nu. Il révèle ses sentiments et nous avons l'Épître aux Galates. Merveilleux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que les Corinthiens et Galates sont des épîtres très, très personnelles de l'apôtre Paul. Et à travers sa personnalité, Dieu nous a donné sa parole. Et quand on parle de doctrine de l'inspiration, donc, c'est la parole de Dieu, donnée dans des circonstances humaines. Mais nous sommes obligés de conclure qu'elle est réellement la parole de Dieu. Et si nous concluons cela, il s'ensuit que la Bible est sans erreur. Il n'y a aucune erreur. Nous ne pouvons pas admettre la moindre erreur dans la Bible. Si Dieu est vrai, et vous croyez ça, que Dieu est vrai, eh bien, sa parole est vraie. Il ne peut pas en être autrement. Comment peut-on parler d'erreurs géographiques, historiques, dans la Bible? Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a quelque chose peut-être qu'on ne comprend pas, peut-être que le texte pose certaines difficultés, d'accord, mais il n'y a pas d'erreur. Aucune. Ça, c'est clair, il faut qu'on accepte cela par la foi. Bref, s'il pouvait se glisser une seule erreur dans la Bible, tout le fondement est ébranlé et va s'écrouler. C'est aussi clair que ça. Je ne comprends même pas comment des gens qui ne croient pas totalement à l'inspiration plénière et verbale des Écritures, c'est autrement dit, c'est les mots sont inspirés et tous les mots sont inspirés. Moi, je ne comprends même pas comment ils font pour garder la foi. Moi, je garde la foi dans la parole de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu, parce qu'elle est inhérente. Elle n'a pas d'erreur. Elle ne fait pas d'erreur. Même si ce sont des hommes qui l'ont rédigé avec, comme on l'a vu, des sentiments, des émotions, des opinions, des avis, la Bible est exempte de toute erreur. Maintenant, je veux aller d'un point de vue pratique par rapport à ce que je viens de vous partager. D'un point de vue pratique, quel impact la croyance dans la doctrine de l'inspiration de la Bible? Qu'est-ce que ça devrait être cet impact-là? Quel impact ça devrait avoir dans nos vies de tous les jours? Il doit y avoir un impact pratique sur nous qui lisons, étudions, peut-être même prêchons la Bible. Permettez-moi de vous proposer deux applications pratiques. Premièrement, l'inspiration de la Bible nous amène à prier avant de la lire. C'est hyper pratique, ça. Parce que j'espère que vous lisez à tous les jours. Et si vous lisez à tous les jours, j'espère que vous priez avant de lire à tous les jours. Quelqu'un a dit un jour ceci, et c'est affiché aussi dans le PowerPoint. Qui de mieux pour nous aider à comprendre la Bible que celui qui a inspiré la Bible? C'est Dieu qui, par l'Esprit-Saint, a donné la parole de Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui, par l'Esprit-Saint, peut aussi le mieux nous aider à comprendre les Écritures. Maintenant, une telle déclaration ne contredit pas du tout le ministère des prédicateurs, des enseignants de la Bible. Elle ne contredit pas non plus l'utilité des commentaires bibliques pour nous aider à comprendre. Mais une telle déclaration nous encourage simplement à toujours prier Dieu avant de lire la Bible pour lui demander de nous éclairer, de nous aider à la comprendre et surtout de la mettre en pratique dans nos vies. Prier avant de lire doit devenir un réflexe. On doit avoir ce réflexe-là. Dès qu'on prend la Bible en main, réalisez-vous quel privilège nous avons. Sentez-vous Dieu au-dessus de vous, qui est juste au-dessus de votre épaule, qui vous regarde et qui dit, permettez-moi cette mise en scène, qui dit, attention, c'est mon livre que tu vas ouvrir. C'est ma parole et elle est vivante. Elle peut changer ta vie. Voilà pourquoi on devrait prendre un temps de prière avant de lire les Écritures. Après aussi, bien entendu, et pendant toute la journée. Application pratique de la doctrine de l'inspiration, c'est la parole de Dieu, je vais prier avant. La deuxième application pratique que je vous propose ce soir, elle est la suivante. L'inspiration de la Bible nous amène à nous soumettre à l'autorité des Saintes Écritures. Si nous sommes convaincus que la Bible est la parole de Dieu, eh bien, cela va nous amener à obéir à ce qu'elle dit. C'est évident. Bien entendu, il faut développer la maturité de bien l'appliquer dans nos vies. Mais si nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle vient de Dieu, que c'est sa parole, qu'elle est autoritaire, en ce sens qu'elle nous dit ce que nous devons croire et faire, eh bien, nous allons nous y soumettre. La Bible, elle est suffisante. On n'a besoin de rien de plus, en un sens, pour affermir la foi, pour nous faire grandir. Ce n'est pas qu'elle répond à toutes les moindres questions que nous pourrions avoir, mais elle répond parfaitement, cependant, à toutes les questions que nous devons savoir. Tout ce qu'on doit savoir nous est donné et révélé dans les Écritures, que ce soit en lien avec ce qu'on doit croire, la foi, et ce qu'on doit faire, la conduite. Et encore ici, c'est une attitude qui doit être entretenue, développée. Elle n'est sûrement pas naturelle en nous, mais nous avons un modèle par excellence de l'attitude qui convient face à la parole de Dieu, et ce sera l'attitude de Christ que nous allons considérer dans la deuxième partie de notre exposé. Nous voilà arrivés à 20h55, heure de Suisse. Et donc, c'est un moment pour des questions et c'est Nathanaël Bourgeois derrière qui va diriger ça.
Alors, une question qui me paraît importante, Gilles, pourquoi les livres deutéro-canoniques ne sont pas inspirés? C'est vrai qu'il y a d'autres livres que ceux qu'on a, par exemple, dans une Bible d'Arby, dans une Bible Second, qui existent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces autres livres? Pourquoi est-ce qu'on peut conclure qu'ils ne sont pas inspirés?
C'est une autre façon deutéro-canonique de parler des livres apocryphes. Généralement, on utilise aussi ce terme-là. Deutéro-canonique veut simplement dire que c'est un deuxième canon et cela vient surtout du Concile de Trente où on a ajouté certains livres à la Bible en appui aux doctrines du catholicisme romain à l'époque qui ne trouvaient pas de fondement dans la Bible elle-même telle qu'elle a été transmise par les Juifs et l'Église. Il faut dire que ces ouvrages sont hyper intéressants à plusieurs égards. Je pense entre autres au niveau historique avec les livres des Maccabées. Je pense aussi au niveau doctrinal ou théologique pour comprendre la théologie juive, par exemple sur les anges avec le premier livre d'Enoch. Je pense qu'il y a aussi des livres qui sont vraiment farfelus, qui représentent toutes sortes de légendes. Il y a des ajouts aussi historiques à certains livres canoniques, comme les ajouts au livre d'Esther ou Daniel, surtout dans les versions grecques anciennes. Mais ces ouvrages qui sont connus depuis longtemps, qu'ils existaient déjà au temps du Seigneur et des apôtres, ce sont des ouvrages qui viennent du peuple juif, de leur histoire, de leur culture, de leur religion. Et le caractère même de ces ouvrages témoigne qu'ils ne sont pas inspirés de Dieu. Non seulement au niveau de leur contenu doctrinal, mais aussi dans les rapports historiques, ils sont bourrés d'erreurs. Il y a beaucoup de contradictions dans ces ouvrages-là, en particulier dans les livres des Maccabées qui rapportent l'histoire et parfois c'est assez tordu. Donc, il y a d'importantes erreurs dans ces ouvrages qui font en sorte que les Juifs eux-mêmes, qui étaient les dépositaires des oracles de Dieu, comme Paul le dit, c'est à eux que ça avait été confié. Donc, tout l'Ancien Testament était fidèlement transmis par les Juifs, avec à côté, non pas dans le canon hébreu de l'époque, mais à côté, on avait dans l'histoire et la culture juive ces ouvrages qui rapportent différents aspects de la vie juive de l'époque. Donc, on reconnaissait même dans ces auteurs-là qu'ils n'étaient pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, le deuxième livre des Maccabées se termine ainsi, je vais paraphraser parce que je ne me rappelle pas par cœur du verset, là, puis comment c'est dit, mais ce que l'auteur dit, c'est qu'il a fait son mieux en rédigeant son ouvrage, puis en disant, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, tant pis. Franchement, il n'y a aucun auteur poussé par l'Esprit de Dieu qui dirait une chose pareille. Bon, il y a quand même une limite à l'activité humaine, et celle-là, elle n'entre pas du tout dans le cadre de l'inspiration des Écritures. Donc, oui, un certain profit à les lire. Moi, à tous les 3 ans, je passe à travers tous les livres deutéro-canoniques. J'aime beaucoup les lire. Pour mon enrichissement personnel et comprendre certains aspects de l'arrière-plan biblique, mais aucune inspiration dans ces ouvrages-là.
Merci Gilles pour cette réponse. Deux autres questions de Bruno qui me paraissent également intéressantes. N'est-il pas dangereux de lire et d'interpréter la Bible tout seul? La Bible n'est-elle pas prévue pour être lue et expliquée en Église?
Oui, absolument, il y a un danger, ça c'est vrai. Mais chaque enfant de Dieu a le privilège de lire la parole de Dieu pour lui-même et il a le privilège de prier Dieu de lui parler et il peut avoir l'assurance que Dieu va lui parler et va l'amener à grandir. Mais ce n'est pas tout. Donc, c'est pourquoi on parle souvent de culte personnel. Il y a cet aspect de personnel dans notre relation avec le Seigneur où on lit pour chacun de nous, chacun chez soi, dans la communion que nous avons personnellement avec le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu, il nous parle, il nous explique des choses, il nous révèle des choses. Et c'est comme ça chaque fois qu'on lit la Bible. Mais il y a aussi l'aspect qui est collectif, par exemple, où on a besoin de cet aspect-là qui va nous manquer et qui va certainement paraître dans notre vie et dans notre développement spirituel si nous ne l'avons pas. Donc, un croyant ne devrait jamais s'isoler des autres croyants et ne pas fréquenter une église locale. Parce que sous le ministère du prédicateur, Dieu va le faire grandir, va l'affermir, va répondre à ses questions. Et dans cette proposition que je vous présente, on peut faire entrer aussi les cours bibliques comme Biblos vous offre et beaucoup d'autres contextes de formation, de développement, d'apprentissage. Ça fait partie de ce qu'on appelle la vie de disciple. Mais il reste quand même que tous les croyants ont le privilège de lire pour eux-mêmes la Bible et d'apprendre et de découvrir. Et quand il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas hein, dans les Écritures, je dirais que c'est l'ensemble qu'on ne comprend pas encore parce que c'est tellement inépuisable, ben on a le privilège de demander à l'un et à l'autre. Et encore, dans la communion fraternelle, nous sommes édifiés dans la parole de Dieu. Donc, il y a un danger si une personne pense qu'elle est suffisante en elle-même pour interpréter et comprendre la Bible au complet, là, surtout dans cette optique-là. Mais est-ce qu'une personne peut dire qu'elle comprend la Bible parce que Dieu lui parle chez elle dans son culte? Absolument, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un ensemble. J'espère que je réponds bien à cette question. Parce que...
Oui, je profite encore de deux questions qui me paraissent également intéressantes. Petit point à préciser, peut-être, nous ajoute Sylvain, si la Bible est bien parole de Dieu, on ne peut pas pour autant prendre pour argent comptant n'importe quel verset. Par exemple, les enseignements des amis de Job sont critiqués par Dieu au sein même de la Bible. Comment est-ce que tu peux commenter cette affirmation?
Si je comprends bien la question, c'est comme aussi si on parlait de ce que le diable dit dans la Bible. Il dit des mensonges. Il dit des choses qui ne sont pas vraies. Les amis de Job l'ont critiqué et à tort parce qu'ils ont mal parlé de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui-même dit à la fin. Puis heureusement que Job était là pour intercéder pour eux. Eh bien, voici comment je réponds à cette question-là habituellement. La Bible est vraie et est toujours vraie même dans les choses fausses qu'elle rapporte. Autrement dit, c'est vrai que c'est faux. C'est ma manière de répondre à ça. C'est vrai que ce que disent les amis de Job, c'est faux. Et puis, on a besoin de le savoir, que ce qu'ils raisonnent est faux. Franchement, là, la question, elle m'est posée à partir de commentaires des amis de Job, des textes quand même isolés, mais moi, je connais presque un livre au complet qui est à peu près construit comme ça, avec des faux raisonnements. Hein. Ça s'appelle l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Les raisonnements de l'Ecclésiaste sont faux à plusieurs égards. Il se trompe, il fait erreur. Sa façon de voir les choses et de voir la vie elle-même, ça n'a aucun sens. On n'imiterait pas un modèle comme celui-là. Mais dans ce qu'elle nous rapporte, la Bible est vraie. C'est vrai que les raisonnements sont faux. Et donc, on doit le savoir. Et heureusement, on a la Bible pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on est à même de savoir quel type de discours peut être faux, parce que la Bible nous en rapporte des discours faux. On a aussi, par exemple, quand le diable tente Jésus, il cite des textes complètement hors contexte, et Jésus répond par la bonne herméneutique. Il est aussi écrit. Ça, c'est une bonne règle d'interprétation de la Bible. Donc, dans l'ensemble, dans tout ce qu'on voit, il y a des choses fausses dans la Bible, mais c'est vrai que c'est faux et c'est Dieu qui nous l'a appris et qui nous l'a révélé. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en répondant à cette question.
Il y a une question précise sur une contradiction apparente. On peut mentionner plusieurs contradictions apparentes de la parole de Dieu. Mm-hmm. On peut penser notamment à sauf erreur, cet aveugle qui se trouve à la sortie de la ville de Jéricho dans un évangile et puis à l'entrée de la ville de Jéricho dans un autre évangile. Il y a plusieurs contradictions apparentes comme cela. Comment tu réponds à ces contradictions apparentes aussi parfois par rapport au nombre d'années dans certains cas? Quelle est ta réponse à cela?
D'abord, j'aime beaucoup qu'on dise contradiction apparente. C'est bien. Parce que en apparence, il y a une contradiction, c'est vrai. Mais c'est seulement en apparence. Je dirais que la réponse à cette question, c'est une présupposition qu'on doit avoir. Et je l'ai déjà mentionné, cette présupposition-là, c'est de croire que la Bible est la parole de Dieu, et si Dieu est vrai, sa parole est vraie, donc elle est inhérente, il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, forcément, il n'y a pas de contradiction non plus. Donc, il doit y avoir une explication. C'est le réflexe qu'on doit avoir quand on voit une apparente contradiction. Puis, disons-le juste pour que ce soit dans la manière dont notre esprit le voit. Quand on voit une contradiction, Dieu dit « Je ne suis pas un homme pour me repentir » et Dieu dit « Je me repens d'avoir fait l'homme ». OK. Comment on doit comprendre ça? C'est une contradiction. Mais parce que nous croyons qu'elle est apparente, parce que notre présupposition, c'est que Dieu est vrai, sa parole est vraie, il n'y a pas d'erreur, etc., eh bien, il doit forcément y avoir une explication. Et le travail qui peut être assez difficile à faire, c'est de trouver l'explication. Et il y a trois règles, contexte, contexte et contexte. Ça, on sait tout ça, on a souvent entendu ça. C'est le contexte qui va vraiment le plus nous aider. La cohérence théologique, c'est-à-dire l'ensemble de ce que dit l'Écriture sur un sujet doctrinal, par exemple, sur Dieu, sur la théologie propre, sur Dieu lui-même. Eh bien, quand on est dans la Genèse et que Dieu se repent, c'est un langage anthropomorphique, c'est-à-dire un langage à forme humaine qui a pour but d'exprimer des conséquences terribles. Si Dieu dit, dans des mots humains, « je regrette d'avoir fait l'homme », on sait très bien que ça n'ira pas bien pour l'homme. Donc, c'est un langage imagé, anthropomorphique, pour qu'on puisse saisir qu'il va se passer quelque chose, effectivement. Lisez la suite de cette déclaration-là, ça ne va pas bien. Et par contre, quand Samuel déclare que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, là, il fait une affirmation théologique sur le caractère même de Dieu. Voici qui est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Donc, il ne change pas d'idée, il ne regrette rien, il ne se repent pas dans son essence même en tant que Dieu. On devrait penser toujours complémentarité plutôt que contradiction. Ces deux textes-là vont se compléter l'un l'autre, en nous donnant des bonnes explications, en fait. Jéricho, pour moi, c'est très simple. Un évangile a porté attention sur un des deux aveugles, et l'autre évangéliste, lui, il a porté attention ou a mentionné qu'ils étaient deux, tout simplement. Est-ce qu'ils sortaient ou entraient dans Jéricho? Il y avait un Jéricho antique, même à l'époque du Seigneur, et il y avait la nouvelle Jéricho. Ils pouvaient sortir de l'une, rentrer dans l'autre, etc. Je veux dire, il y a des explications. Il y aura toujours des explications, mais parfois, elles peuvent être difficiles à trouver, c'est vrai. La Bible, rappelez-vous, pas d'erreur, pas de contradiction, complémentaire.
Merci beaucoup, Gilles, et puis merci aussi à vous pour vos questions. On va répondre à quelques questions. On ne va pas pouvoir chaque fois répondre à tout lors de la session. Donc, les autres questions seront soit répondues par chat, soit par Gilles, et vous aurez les réponses d'ici la prochaine session. J'en profite de saluer tous ceux qui sont réunis dans des locaux d'église. On est très heureux de savoir aussi ce soir que ce cours est diffusé dans plusieurs églises locales, que ce soit à Pompigny, à Renan, et puis également dans d'autres endroits en France, même en Haïti. Donc, on vous salue aussi, vous qui êtes réunis plusieurs ensemble pour ce cours Biblos. Et puis, on veut vous souhaiter une bonne pause parce qu'on vous propose une pause jusqu'à 9h15 précise. À bientôt.